marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous aide à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
De l'Algérie à la France, une famille en mouvement.
Quand je m'inscris en médecine, là, c'est le choc. Moi, j'arrive habillé en sans vêtements, en basket, normal, quoi. Et là, j'arrive, je vois des filles avec des robes plissées, avec des espèces de nœuds rouges dans les cheveux, là. J'avais jamais vu ça de ma vie, même pas à la télé. Et ça, c'est un choc pour moi. J'ai réalisé qu'en fait, d'abord, il y avait plusieurs France, et puis que ces gens-là, ils vivaient pas comme nous, quoi. Ils avaient leur fête à eux, ils avaient leur musique à eux. La première année, ça se passe pas bien, parce qu'on n'a ni les grilles de lecture, c'est pas possible. C'est une course que vous pouvez pas gagner. On est 670 la première année. Moi, je termine, c'est ça, enfin, chiffre, on peut pas oublier, c'est 444e. Dans les choux, quoi. L'année d'après, les choses changent complètement. Et là, on passe de 444e à 28e.
Extrait de cette série sur les enfants de France venus d'ailleurs, qui est présentée sur France 2 et qui est intitulée « Histoire d'une nation », histoire au pluriel. Cette série, quand elle aborde le contemporain, privilégie souvent les personnalités qui, issues de l'immigration, comme on dit, sont souvent déjà connues. L'enquête que nous allons présenter aujourd'hui, en contrepoint, est une histoire par le bas. Le sociologue Stéphane Beau l'a menée pendant 5 ans dans une famille dont les parents, venus d'Algérie en France dans les années 1970, ont élevé 8 enfants ici. Des Iciens, dirait Jamel Debbouze. Enquête respectueuse dans une famille éminemment respectable. Ses membres n'aimeraient guère être qualifiés d'intégrés. Néanmoins, l'enquête montre toutes les forces d'intégration à l'œuvre dans la première partie de leur parcours. Elles ont très bien fonctionné pour les 2 sœurs aînées, personnalités, il est vrai, très énergiques, qui ont mis la barre très haut pour les enfants suivants. Les garçons ont eu un parcours scolaire plus heurté. Dimorphisme sexuel classique, disent les sociologues. En tout cas, ces garçons eux-mêmes ont fini par décrocher un emploi et ont peu ou prou accompli leur rêve, qui était somme toute assez simple. C'était ceux des classes populaires stables. Entre l'aîné et la cadette de la famille, il y a 16 ans. On va voir qu'au moment décisif, pour les plus jeunes et plus encore pour les enfants des uns et des autres, quelque chose s'est déréglé. Les forces d'intégration sont comme désarmées à l'école, dans la cité, au travail. La famille ressent une solitude sociale. La bienveillance dont elle a pu se sentir entourée s'est érodée. La mère s'est vue refuser la nationalité française alors qu'elle l'avait eue avant 1962 et que le parcours de ses 8 enfants témoignait suffisamment pour elle. La succession des attentats affole la boussole des uns et des autres. Les usages que fait de l'islam chacun des membres fondateurs de la famille diffèrent cruellement. Cependant, ils demeurent unis comme les 10 doigts des mains. Leur solidarité rapprochée leur est plus nécessaire que jamais.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Stéphane Beau, l'auteur de cette enquête, bonjour.
Bonjour.
Sociologue dont les autres enquêtes depuis longtemps font référence. Un jour, en 2012, vous faites un topo dans une mission de l'emploi et se présentent 3 grâces.
Exactement, 3 personnes, 3 jeunes femmes, entre guillemets, qui, après mon topo sur finalement le destin scolaire assez classique des enfants de milieux populaires, notamment d'immigrés, viennent me voir à la fin. Donc, j'ai expliqué un peu les ressorts sociaux de ces parcours. M'attendent visiblement à la fin de cette conférence, si l'on peut dire. Il y avait pas mal de monde. Et je comprends assez vite qu'elles ont envie de me parler, notamment la première d'entre elles, qui est la sœur aînée, que j'ai appelée Samira. Je vous dirai pourquoi l'enquête est anonyme. Et finalement, elle me remercie pour ce que j'ai dit. Elle me remercie surtout parce que, après, je découvrirai cela, que nous sommes quelques mois après les attentats de Mohamed Merah à Toulouse et que les 3 sœurs en ont été terriblement meurtries et que finalement, le discours que j'ai tenu là rendait, sinon hommage, du moins justice du parcours de la majorité des enfants d'immigrés algériens ou maghrébins en France.
Sauf qu'on ne va pas entendre les membres de la famille Belloumi, ainsi l'appelez-vous, dans ce livre qui paraît aux éditions de la découverte, parce que c'est anonymisé, votre travail, en règle générale.
Oui, parce que, bon, bien évidemment, on peut tous l'imaginer, enquêter dans une famille, auprès d'une famille de 8 enfants, avec des histoires personnelles, une vie privée, etc. Bon, c'est tout à fait compliqué, voire quasiment impossible de rendre ce témoignage complètement public. Je l'ai rendu public par un livre, mais il faut, chacune de ces personnes a une vie familiale, sociale, personnelle, professionnelle, et il était hors de question, et on s'est entendu là-dessus tout de suite avec les 8 enfants, de publier de façon non anonyme. Donc j'ai anonymisé le nom des lieux, le nom des personnes.
Difficulté pour nous que nous allons contourner en utilisant souvent un documentaire qui n'a pas eu les honneurs de France 2, il est un peu ancien, 2001, mais plein de talent de Jean-Bernard Andreau, qui s'appelle Algérien de Lyon. Les deux parents, là, qu'on va entendre, monsieur et madame Belloumi, ont aujourd'hui 76 et 66 ans, ressemblent à ce que sont monsieur et madame Belloumi, sont venus, c'est la troisième vague de l'immigration algérienne, après l'indépendance, avant que ne se referment les frontières en 1974.
Quand j'ai quitté l'Algérie, quand même, elle était pas mal. Voilà, il y avait de tout, mais on s'est trouvé tout seul, on s'est trouvé la bouche ouverte, et on n'avait pas des gens compétents.
On était habitués, nous, avec les Français. On était comme ça, c'est pas comme ici. Hein. Chacun, il ferme sa porte, il a peur. Quand il vous voit comme ça, il a peur. Attention, c'est un arabe. Ah non, là-bas, non.
On savait pas qu'il...
Parce qu'on est partagé, nous, en deux.
Partagé en deux, sans enseignement de la part de monsieur et madame Belloumi, du ressentiment, avec un jugement tempéré sur la France, comme sur l'Algérie d'ailleurs.
Oui, partagé en deux, je pense que l'expression est assez juste. Mais là, il faut aussi voir l'histoire des immigrés. Elle peut être différente. Un cas intéressant dans cette famille, c'est qu'ils reviennent, par exemple, tous les 2 mois, chaque année, en Algérie. Donc ce sont des immigrés qui n'ont pas rompu du tout avec leur famille d'origine, qui restent, qui gardent ce lien très fort, ce qui fait qu'effectivement, les enfants vont vivre en permanence, ils vont vivre des deux côtés, 10 mois par an en France et 2 mois en Algérie. Et ils vont grandir aussi avec cette double socialisation. Par exemple, les filles aînées vont grandir aussi davantage que les cadettes au moment de la guerre civile, de la décennie noire. Et bien évidemment, ça leur donne une image de l'Algérie sombre, et donc avec un tas de réflexion autour de est-ce qu'on peut faire notre vie ici. Et en ce sens, l'aînée est née en 70, les aînés n'ont pas du tout eu le mythe du retour comme l'ont eu les marcheurs de 83 qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas pris la nationalité française. C'est très intéressant cette question de nationalité parce que les deux aînés, par exemple, sont nés en Algérie, donc elles sont algériennes. Et elles deviennent françaises d'elles-mêmes, entre guillemets, en demandant la naturalisation, parce que au lycée, quand elles sont en première terminale, bien évidemment, pour asseoir leur avenir scolaire et professionnel, on leur a dit, elles ont compris qu'il fallait être française pour passer le concours d'infirmière ou d'institutrice. Donc effectivement, il y a ce fait de mécanisme juridique qui est important aussi.
Alors Samira et Leïla, c'est ainsi que vous nommez les deux aînés, ce sont de véritables locomotive et elle tient un rôle extraordinaire dans la famille. Alors monsieur Belloumi est tombé assez vite malade, il vit d'une invalidité, donc il a très peu de ressources. Madame Belloumi va avoir 8 enfants et c'est assez tardivement qu'elle va pouvoir commencer à travailler. Le fait d'être femme de ménage dans un collège, elle voit ça presque comme une émancipation, mais du coup de lourdes responsabilités viennent sur les épaules de Samira et de Leïla.
Moi, je me rappelle, ma mère nous levait à 5 heures du matin parce que ma mère, appliquant la règle de la fille aînée qui doit suppléer à toutes les tâches ménagères, elle nous réveillait, moi et ma sœur aînée, à 5 heures du matin pour qu'on puisse faire tout le ménage avant de partir à l'école. Alors le soir, quand on rentrait, on devait se soucier de ce qu'il fallait faire, etc., pour les enfants. Toi, avec le peu de connaissances que tu commences à acquérir, on t'assigne tout de suite des tâches. Tu dois aider les parents, tu dois les assister. J'ai vraiment le sentiment, quelque part, d'avoir été la mère de mes propres frères et sœurs, à tel point que je ne souhaitais pas avoir d'enfants parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu la maternité. Mais je l'ai vécu, la maternité, dans les pleurs de la nuit, dans les couches, en tant que sœur aînée. Donc, je me substituais totalement à mes parents. Je prenais rendez-vous avec les professeurs, je rencontrais donc les éducateurs, je rencontrais tout le monde pour suivre la scolarité. Et quand ils essuyaient un échec, j'étais en colère. Mais la colère et la déception de la mère. et non pas de la sœur aînée, parce que j'étais totalement impliquée.
Je rappelle, on n'entend pas les Belloumis. D'ailleurs,
c'est
les Belloumis,
comme si on les entendait.
Elles ne s'appellent pas les Belloumis. C'est un documentaire plus vieux de la télévision publique, remarquable, de Yamina Benguigui, il y a une vingtaine d'années. C'est comme si on les entendait. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Si les sœurs aînées n'avaient pas été exemplaires?
Alors, c'est une grande question de sociologie fiction, mais il se trouve qu'elles l'ont été. Je répondrai comme ça. Elles l'ont été. Justement, cet extrait est formidable parce que, voilà, on me pose souvent la question, mais finalement, ce livre, c'est une famille. Qu'est-ce que ça prouve? En fait, quand on écoute ce documentaire, comme je reçois pas mal de lettres de lecteurs qui me disent, mais les Belloumis, c'est nous. Les Belloumis, c'est moi. Donc, on retrouve ce rôle pour les sœurs aînées, effectivement, de seconde mère.
Mais les Belloumis, c'est aussi les enfants des classes populaires françaises.
Absolument.
Qui ont connu la même histoire. Voilà, avec la sœur aînée qui donnait l'exemple, qui faisait parfois des études supérieures plus courtes pour que les garçons puissent suivre.
Alors justement, en préparant un peu cette émission, il se trouve que ce matin, je suis tombé sur un extrait de Charles Aznavour, qui est décédé, comme vous le savez, hier ou avant-hier. Et voilà ce qu'il dit, je trouve que c'est très frappant, ça vaut pour les filles Benoumi. Il fallait avoir le cœur bien accroché, le besoin de bouffer, une détermination à toute épreuve. Mais j'aimais la bagarre, le défi, la conquête, mon côté Bonaparte. Et il finit, quand on est pauvre, fils d'immigrants, apatride, il faut sortir de sa condition et la tête haute. Ça vaudrait exactement pour les enfants Belloumis.
Alors Samira, il a organise le temps des cadets, un petit peu comme la bourgeoisie culturelle fait en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans l'emploi du temps des enfants. Samira donne le goût de la lecture aux plus jeunes. Et Leïla, elle est très animatrice, on est dans une municipalité communiste et elle aime bien travailler comme animatrice sociale.
Les deux sœurs, en fait, elles ont 3 ans de distance, mais elles ont des rôles très différents dans la famille. La sœur aînée, elle est ce que vous avez dit, elle joue un rôle de passeuse culturelle, elle est très impliquée sur les questions scolaires. La deuxième sœur, comme elle a vu sa première sœur, elle est très enfermée dans le modèle école-maison, comme elle dit, ma vie jusqu'à 18 ans, ça a été école-maison. La deuxième sœur, Leïla, a très vite compris qu'il lui fallait des marges de manœuvre, donc elle s'est échappée. Elle raconte par exemple comment son bonheur à 7-8 ans d'aller au catéchisme. Elle est de confession musulmane, ses parents sont entre guillemets musulmans, mais même si c'est pas important pour eux à l'époque, globalement, ça n'empêche qu'elle cherche à trouver des voies pour ne pas être enfermée dans la maison comme sa sœur.
Mais deuxième question, si elles avaient été mariées par un mariage arrangé et durable, comme le souhaitait ardemment Madame Belloumi, qui lui faisait des attaques de tachycardie quand elle ne voyait pas ce désir de mariage immédiat satisfait.
Il faut déjà comprendre pourquoi Madame Belloumi, au départ, pour les filles aînées, pour les filles cadettes, je pense que c'était un peu différent. Parce qu'effectivement, elle est sous la pression de la communauté algérienne du coin, entre guillemets, où les enfants, les filles notamment, font moins d'études, donc elles sont mariées plus vite. Et au contraire, les deux sœurs aînées Belloumi font des études, et c'est grâce aux études qu'elles vont pouvoir reporter. La question essentielle, c'est le report du mariage. La mère, entre guillemets, joue son rôle traditionnel, mais elle est contrée, si l'on peut dire, par la force d'émancipation des filles, qui, grâce à l'école, c'est un passeport. L'école, c'est pour ça que c'est important l'école, c'est le passage en seconde, la terminale, ensuite les études supérieures. Et ce sont ces études supérieures qui permettent aux filles aînées d'échapper à ce destin, entre guillemets, du mariage sinon arrangé, du moins.
Au départ, avant les études en collège, avant les études supérieures, il y a l'institutrice. Madame Trier, ça c'est un nom exact.
C'est aussi un anonyme.
Bah quand même, vous auriez pu garder le nom de l'institutrice extraordinaire.
Extraordinaire, mais si
qui
je donne son nom.
Qui a porté plusieurs filles de la famille.
Voilà, si je donne son nom, voilà, je donne le nom des familles. Bien évidemment, elle a lu le livre, Madame Trier, justement, elle a été très émue par ce livre parce que elle a vraiment retrouvé l'histoire de cette famille. Et elle a fait comme beaucoup d'institutrices ou professeurs de ces années-là. Elle a joué un rôle majeur pour encourager, entraîner. C'est pour ça que vous avez raison de dire que ces enfants Belloumi, c'est les enfants des classes populaires stables, parce que on sait très bien que pour réussir à l'école, il faut des étés, il faut des gens qui vous appuient, il faut des gens qui vous encouragent, il faut des gens qui vous soutiennent. Et on dira jamais assez le rôle majeur de l'institution scolaire pour encourager les enfants de milieu populaire à réussir à l'école.
Stéphane Beau, si on passait au garçon dont Rachita prévient « Pauvre garçon, tu as raté ta chance, comme avant toi j'ai raté la mienne. Je vous donne, émigré, un ultime conseil. Étudiez ce qui est de votre intérêt avant de vouloir vendre ou acheter. Sinon, Inch'Allah, vous vivrez mes mésaventures. Les erreurs de jeunesse pour les garçons se payent cher.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ils vont en ville. Ah ouais. T'as 7 mecs qui marchent. Non. Ils ont tous les 7 un survêt jaune, remontés jusqu'au mollet parce qu'il faut qu'on voit la marque des chaussettes, il faut qu'on voit la marque des baskets. C'est rasé, c'est tous les mêmes, tous pareils, et ils écoutent tous la même musique. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors d'un côté, t'as 7 mecs habillés pareils, et de l'autre côté, t'as 7 flics habillés pareils qui marchent. Il y a des mecs, toute leur fortune, elle est sur eux. Sur sa montre à 10 bars, sur ses baskets à 1000 francs, sur son survêt à 1000 balles, tu vois? C'est inconcevable. Nous, on a porté des baskets, c'était des Bucks, des Adidas à deux bandes.
Un carton.
Non, mais c'est vrai, en bois. Mais là, maintenant, un gamin, il aurait honte de sortir comme ça dans la rue.
Stéphane Beau, dans la famille Belloumi, c'est le thème de votre grande enquête aux éditions de La Découverte. Maintenant, je prends les trois garçons, qui sont des gars de la cité, avec les caractéristiques qui viennent d'être décrites là.
Un peu, mais pas entièrement. J'ai expliqué la différence. Déjà, ils sont entre les trois. Il y a 8 enfants. Les trois garçons sont entre les deux groupes de filles. Ils sont nés en 75, 79 et 81. Et ils sont à la fois. Ils ont grandi dans une cité HLM d'une banlieue communiste au centre de la France. Donc, effectivement, ils partagent ces caractéristiques-là. Mais il y a des petites différences. Le fait est, par exemple, que le père, très tôt, a choisi, entre guillemets, d'habiter un HLM pas au cœur de la cité, loin des tours et des bars. Et ça, lumière. C'est très important, parce que justement, le deuxième fils, Asdine, qui est chauffeur de bus, me dira très justement, mais ça a joué beaucoup dans nos fréquentations à l'école primaire et au collège. On était à la fois, entre guillemets, des Arabes, mais pas entièrement des Arabes, puisqu'on était aussi, grâce au sport, au basket et autres, nos copains d'école primaire, Rachid, le frère aîné, avait des copains encore aujourd'hui qui sont gendarmes, etc. Donc, ils partagent des caractéristiques communes, mais ils ont des petites différences qui vont jouer, bien sûr, un rôle important, parce que, bien évidemment, la caractéristique de ces garçons, c'est qu'ils n'ont pas eu le bac général, aucun n'a eu le bac comme les sœurs aînées, qui ont toutes bac plus 3, mais alors qu'ils ont arrêté les études parfois au troisième, ils ont tous un travail, ils ont tous un emploi. Et c'est ça au début de l'enquête qui m'avait frappé lorsque, à la réunion en mission locale, j'avais fait une sorte de paysage de la famille et j'avais tout de suite appris que les trois frères étaient en situation d'emploi.
Oui, mais Rachid, l'aîné, n'a pas toujours été en situation d'emploi. Mais alors, vous dites, même quand il apparaît comme la caricature du gars de cité, boxeur, bagarreur, voleur, qu'à un moment il se retrouve en tôle, au fond, il est à part.
Oui, il a pas, parce que il me semble aussi, là, il faudrait aller plus loin dans les entretiens, mais je dirais qu'il est aussi à part parce qu'il a été, ça c'est très important, il a été secouru, soutenu en permanence par les deux sœurs aînées, et notamment par Samira. Par exemple, quand il va effectivement en prison 6 mois pour un vol qualifié ou 4 mois pour un vol qualifié, eh bien, sa sœur se déplace sur place à la prison, va le rencontrer, écrit des lettres pour les avocats, et lui maintient la tête hors de l'eau par un soutien affectif qui est fondamental. Là aussi, il m'a souvent dit que finalement, sa sœur, il lui disait tout. Elle jouait un rôle très important symboliquement, de maternage aussi.
Mais il est très sympathique. Hein. Je ne sais pas si ses sœurs cadettes l'ont trouvé toujours sympathique parce qu'il était un peu encombrant, mais séducteur, baratineur, vendeur. Alors quand il devient vendeur, il vend des encyclopédies juridiques, ce qui est finalement assez drôle. Et il n'exerce pas de surveillance sur les plus jeunes.
Non, voilà, il cherche lui, et c'est ce qu'on oublie de dire, c'est que la plupart de ces enfants d'immigrés sont comme des enfants de classe populaire, ils veulent faire leur vie tranquillement. Et ça passe par le travail. On ne redira jamais assez le rôle fondamental du travail. Pourquoi Rachid s'en sort malgré tout? C'est qu'assez vite, il y a aussi des gens qui lui tendent la main et qui lui font trouver un petit boulot d'être commerçant, vendeur dans une boutique. Et à ce moment-là, il se révèle. Ça, c'est aussi, je pense que même par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est quand même par le travail que les personnes s'émancipent et prennent confiance en eux. Parce que l'extrait d'entretien sur les survêtements, tous pareils, etc. Tout ça, c'est bien sûr ce fond de manque de confiance en eux, de ratage scolaire. Symboliquement, ils sont nuls et ils se rachètent par ce genre d'uniforme.
Et de conflits souvent avec le père. Et c'est Rachid qui aujourd'hui s'occupe au plus près du père affaibli. Rachid, à qui une patronne, quand il travaillait dans un restaurant de luxe, avait dit « Mais c'est pas bien votre prénom, vous pouvez pas en trouver un autre ?»
Mais moi, j'ai un mec. Il m'a dit, j'ai appelé mon fils Olivier.
Harvey ?
Ouais. Bon, ça m'a un peu interpellé, alors je lui ai dit, mais dis-moi. Il m'a dit, mais en fait, je voulais l'appeler Zitouni. Mais comme Zitouni en arabe, c'est l'Olivier, alors je l'ai appelé Olivier. Non, mais attends, tu le prends pour un âne ? C'est grave, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui-même, déjà, il se sent mal à l'aise. Il dit, faut pas que je donne un prénom trop marqué à mon fils, sinon il s'intégrera pas.
C'est ce qu'ils me disent, moi. Pourquoi tu l'appelles Mohamed Amin, ton fils ? Pourquoi tu l'as pas appelé un nom européen, style. Voilà.
Kevin,
un truc comme ça.
Ça veut dire que nous, on est rentrés dans cette logique. Tu vois, c'est ça qui est grave.
le doc de Jean-Bernard Andreau, toujours. Ils sont 8 enfants. La mère aurait préféré n'en avoir que 5. Ils ont combien d'enfants et quel prénom?
Justement, ce qui est très frappant, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, les filles aînées vont restreindre leur fécondité, si on peut dire, vont se marier tard, vont avoir des enfants, 2 pour la sœur aînée Samira, 1 pour Leïla, et puis les 3 cadettes auront chacun 1, 2 et bientôt un enfant. Donc en fait, voilà, on passe d'un modèle assez classique de famille très nombreuse de 8 enfants à des enfants. L'intégration, c'est ça. C'est voilà, on est tellement dans la France, on sait très bien que pour notamment la question d'investissement scolaire et pour les questions matérielles, aujourd'hui la norme c'est 2, 1,9 enfants. Et donc ils sont entièrement dans cette norme-là, les enfants Miloumi. Ils sont comme.
Et quel prénom?
Ils donnent des prénoms qui sont non pas qui sont mixtes, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut très bien à la fois ils peuvent dans le monde arabe, ils peuvent compris comme des prénoms dits arabes, mais dans le monde français, ils peuvent très bien aussi être perçus comme non arabes. Donc, ils ne donnent pas les vieux prénoms, comme Mohamed, par exemple. Voilà, il y a aussi ça. Parce que pourquoi ils donnent ces prénoms-là? Parce qu'ils sont aussi très attentifs au regard de leurs parents sur la prénomination. C'est ce que, bien sûr, comprend pas quelqu'un comme Zemmour. C'est bien sûr, symboliquement, c'est important de ne pas aller tout de suite d'un côté, de l'autre côté, bien sûr. Ils ont des attaches, ils ont des racines et ils veulent, bien sûr, composer, si l'on peut dire.
Dites-moi, les forces d'intégration sont peu à peu désarmées dans la nouvelle période à laquelle nous parvenons. Le travail, les filles qui sont dans le social en général, ils deviennent assez malheureuses à cause du management à l'œuvre. Samira est cadre supérieur dans un hôpital et elle n'est pas à l'aise. Et puis, vous posez des questions sur l'espace scolaire. Y a-t-il encore des successeurs à Madame Trier, institutrice? Missionnaire, les circonstances sont plus difficiles, les collectifs enseignants plus instables, moins homogènes. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il faudrait fouiller des différences générationnelles entre les enseignants qui travaillent ces secteurs scolaires?
Donc, faut surtout pas opposer deux âges très différents. Il y a encore, bien évidemment, dans le monde enseignant, je suis enseignant à l'université, je vois les gens qui passent le CAPES ou le concours des écoles, bien évidemment. Il y a encore des missionnaires, des gens qui y croient, notamment des jeunes femmes. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est devenu beaucoup plus difficile d'enseigner aujourd'hui. Il y a des moyens, bien sûr. Il y a un point qui est trop souvent oublié, y compris par certains sociologues d'éducation, c'est le poids des contraintes matérielles. J'étais justement dans une émission à France Culture avec une directrice d'école à Bobigny. Qu'est-ce qu'elle racontait, cette directrice d'école à Bobigny? C'est qu'aujourd'hui, une partie des enfants arrivent à l'école, ils n'ont pas mangé. Il y a des contraintes matérielles, ce qui fait que pour apprendre, il n'y a pas uniquement des ressources cognitives qui sont en jeu. Il y a aussi une question de précarité matérielle qui rend le métier des enseignants beaucoup plus difficile, sans compter bien sûr le fait qu'on a bien vu, on commence à voir le fait en CP dans les classes de ZEB d'avoir diminué de moitié. Bon, tous les enseignants vous disent on enseigne mieux parce que ces élèves-là ont besoin de beaucoup plus. C'est ça, bien sûr, une politique de démocratisation scolaire devrait passer par cette question-là. Il faut donner beaucoup plus à ceux qui ont moins. On le sait depuis 20 ans en sociologie d'éducation.
Besoin d'un regard bienveillant aussi, surtout que dans l'espace politique, le regard devient peut-être de plus en plus malveillant.
Moi, un jour, un mec, il est venu voir ma mère. Ma mère lui dit, écoute, monsieur, il y a de l'humidité dans la maison. Ouais. Il vient, il regarde, il va dans la chambre, un F5. Il va au fin fond de la chambre. Il lui dit, madame, je pense que c'est parce que vous faites trop de couscous. Attends, il me dit, monsieur, madame, je pense que c'est parce que vous faites trop de couscous.
Dans la chambre?
Ouais, comme si ma mère cuisinait dans la chambre, tu vois. Ouais. Comment tu veux que ma mère, elle dit, mais je comprends pas, les Français, ils sont racistes ou quoi?
Ça, c'est comme Camelgro quand il m'a dit je prends mon pain chez l'autre, il vote FN. Il me dit je prends mon pain chez lui. Je lui dis non, pourquoi tu boycottes pas? Il me dit non, la qualité c'est la qualité, je prends chez machin. Mais moi j'estime qu'une personne qui est raciste, que quand elle vient, elle peut pas avoir ta gueule, elle va pas avoir mon argent.
Voilà, exact.
Voilà, c'est tout. L'autre, la qualité, c'est la qualité. Zarma, t'as grandi avec la qualité, t'es né dans un château.
Dans ce contexte de tension grandissante, la famille, dites-vous, sous l'égide des deux locomotives, et notamment de Leïla, a voté à gauche. Par exemple, dans l'unanimité, les garçons traînaient peut-être un peu les pieds au moment de l'élection de Hollande. Et maintenant, tout se fissure, pas seulement politiquement, mais à cause des usages différents que la famille fait de l'islam. Alors, à la différence d'Histoire d'une nation, le documentaire qu'on va voir ce soir sur France 2, vous travaillez longuement sur ce thème.
C'est-à-dire, au départ, la question de la religion n'apparaissait très peu. L'enquête a duré 5 ans. Donc, au départ, très peu d'entre eux me parlent de la religion parce que, comme Asdine, ils considèrent que la religion, c'est sa vie privée, leur vie privée. Ça ne regarde pas le sociologue. Mais c'est petit à petit, chemin faisant, à partir d'entretiens, notamment au moment du Ramadan, j'ai commencé à essayer de fouiller les différences à l'intérieur de la famille entre ceux qui pratiquaient le Ramadan de manière très stricte et ceux qui le pratiquaient, l'évitaient ou étaient assez peu disert sur cette question. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que ça serait intéressant de comprendre à l'intérieur de la famille comment il y a des usages différents de la religion. Et à un moment donné, Samira me raconte une scène assez extraordinaire où, alors que c'est l'aînée de la famille, extrêmement respectée par tout le monde, elle se retrouve mise au banc d'un repas de Ramadan parce que une de ses sœurs lui reproche de pas vraiment faire le Ramadan. Donc, elle se sent complètement bannie. Donc, c'est quelque chose qui lui a fait mal. Et elle me raconte d'ailleurs qu'à ce moment-là, elle est allée voir un psy, je crois, pour discuter de cette grande souffrance d'avoir été mise de côté à cause de cette histoire de la religion. Après, bien sûr, ça fracture pas la famille, bien évidemment. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences qui se cristallisent autour de ces usages, puisque une partie des cadettes ne sont pas des intégristes, loin de là, mais au contraire vont adopter des petits rites religieux, comme par exemple faire le Ramadan un jour avant, en faire un peu, voilà, des petites surenchères, notamment aux yeux de leurs parents, parce que les parents ont fait le pèlerinage à Mecque, qui sont peut-être un peu plus religieux qu'avant, mais pour eux, la religion, c'est pas ça qui va fracturer, mais c'est ce qui m'a intéressé, c'est justement ces petites différences qu'on peut rapporter justement aux trajectoires différentes et surtout aux générations sociales très différentes des aînés et des cadettes.
Ces fissures, c'est pas seulement dans la famille, c'est aussi dans la vie professionnelle. Azedine est chauffeur à la RATP. Et d'un côté, il y a la CGT, dit-il, qui est un peu le péniste. Enfin, il corrige pas mal le péniste. Et puis de l'autre côté, il y a les chauffeurs d'origine immigrée, parmi lesquels dit Azedine, des barbus.
Oui, absolument. Et donc lui, il cherche sa place. C'est pour ça que c'est comme pour le documentaire qu'on vient d'entendre. Et souvent, ces témoignages sont passionnants parce qu'ils sont prises. Ces personnes-là, hommes ou femmes, avec des contradictions sociales qui sont très intenses. Et ils essayent. Et l'avantage de ces entretiens, c'est qu'ils expriment ces contradictions face à moi. Et donc, effectivement, Asdine, il est pris entre, d'un côté, les gars de la CGT qui dit un peu FN, et de l'autre côté, les barbus. Donc, il essaie de faire son chemin. Et c'est pas toujours facile pour ce que les jeunes de cité appellent un arabe provincial.
La famille Belloumi, donc, portrait de famille aux éditions de La Découverte. Ils nous écoutent, c'est pas de jeu parce que eux ils nous connaissent et nous on les connaît pas.
Oui.
Enfin, on peut s'excuser auprès d'eux si on a été
absolument
un peu rapide.
Je voudrais juste conclure quand même par une dernière phrase de Charles Aznavour, justement parce qu'aujourd'hui.
Ah bah vous avez l'usage des médias.
Voilà. Oui. Non, parce que justement aujourd'hui il y a des gens qui appellent à la haine entre guillemets. Je pense que c'est très important d'entendre ce mot de Charles Aznavour. Voilà ce qu'il dit. Je crois que j'ai pris la vie comme il fallait. J'ai adouci les malheurs et pousser sur les bonheurs. Et je pense important aujourd'hui, compte tenu du problème qu'on rencontre dans la société française, de pousser sur les bonheurs et de ne pas surfer sur cette vague misérabiliste et déprimante avec un tas de gens qui poussent à la haine.
Et René Raymond, dont on parlait hier, aimait citer le cardinal de Retz, il vaut mieux être dupe par confiance que dupe par méfiance. Merci à vous. L'émission a été préparée par Franck Olivard, avec à la technique Michel Bézikian, et la réalisation, c'était Audrey Ripouille.